découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découvertes musicales.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 12 décembre 2025. À la lumière du rapport sur le marché locatif publié cette semaine par la SCHL, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, constate que le coût du logement continue de grimper en flèche au Québec, même si l'offre de logement augmente de 2,7%. Selon Véronique Laflamme, porte-parole de l'organisme, la crise du logement en est maintenant une d'abordabilité. Les locataires devant payer en moyenne 62,1% de plus pour se loger au Québec qu'à l'arrivée au pouvoir de François Legault en octobre 2018, dont 10,1% de plus qu'en 2024. Pour le FRAPRU, la seule voie crédible afin de résorber une crise d'une telle ampleur est d'investir massivement dans le logement social accessible aux locataires à faible et modeste revenu. Situé au centre-ville de Québec, le collectif d'impression et de mobilisation politique Brasseville présente demain, à compter de 11h, la seconde édition de la librairie éphémère et politique à la Maison de la coopération. L'objectif de cet événement est de favoriser l'émergence d'une culture de gauche à Québec et de créer des espaces d'échange et de partage. La librairie éphémère et politique a lieu en collaboration avec Résistance Québec ainsi que les greniers agricoles en compagnie de maisons d'édition et de collectifs militants. Outre des conférences tout au long de la journée, une sélection de livres politiques, de zines, journaux, revues, etc. sera offerte en vente. De la nourriture sera également disponible sur place. L'Esprit des Fêtes s'invite demain à la Patente pour une 5e édition à l'occasion d'un marché Noël axé sur la créativité locale. Cet événement réunira 25 exposants et exposantes pour un rassemblement qui se veut festif. Artisanat du bois, décoration de Noël, bijoux uniques, confections textiles et crochetées, cartes de souhait, aliments raffinés seront offerts. Le marché Noël de la Patente a lieu de 10h à 16h30 au 507 rue des Sables à Limoilou. Toujours demain de 9h30 à 12h30 se déroulera la course des Pères Noël, une activité sportive conviviale organisée au profit de la Fondation des Petits Bonheurs d'école. Cette fondation offre aux élèves de milieux défavorisés un soutien financier, moral et affectif afin de faciliter leur intégration à l'école, leur bien-être et leur réussite lors de leur parcours préscolaire et primaire. Le départ de la course des Pères Noël se fait à la Place Royale et le circuit sillonne le Vieux-Québec. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de Sequoia 88.3 FM et sequoiafm.org.
Toute simplicité. Il y a peu, un Indien itinérant sonna à la demeure d'un juriste célèbre de mes voisins pour lui vendre des paniers. Il avait omis de voir qu'il devait d'abord faire en sorte que son acheteur trouvât un quelconque intérêt à les lui acheter, ou du moins faire en sorte que son acheteur crût qu'il y trouvait son intérêt, ou bien fabriquer autre chose que son acheteur pût souhaiter acheter. Moi aussi, j'avais tressé des espèces de paniers de fort jolies factures, mais je n'avais rien fait pour que quiconque trouvât le moindre intérêt à me les acheter. Et au lieu de me pencher sur la question de savoir quoi faire pour que les gens aient envie de m'acheter ces paniers, je m'étais penché sur celle de savoir comment échapper à la nécessité de les vendre. La vie que les hommes louent et saluent comme une vie de succès n'est bien qu'une seule des nombreuses variétés de vie existantes. Pourquoi devrions-nous valoriser une seule de ces variétés aux dépens de toutes les autres? Bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de 2025. On va revenir en ondes au début janvier, le 9 janvier, la prochaine émission de En Toute Simplicité. En attendant, vous pouvez toujours écouter les émissions en podcast si vous allez sur le site des Amis de la Terre dans la section Simplicité volontaire. Dans le site Internet du Comité de Simplicité volontaire, toutes les émissions sont là. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de changement climatique. On a un invité avec nous, Jean Nollet, qui est allé au Brésil. Voyons, j'ai oublié le nom de la ville, là. En tout cas, au Brésil, pour la COP, la dernière COP. Alors, il va nous faire un peu un bilan de sa COP, puis on va parler de changement climatique, où on en est là-dedans. En attendant, là, je vais vous faire ma petite revue de presse habituelle, puis faire quelques annonces. Justement, là, dans les médias, on les voit, les impacts des changements climatiques, surtout ces temps-ci en Asie du Sud-Est, là, la mousson. Et c'est une mousson record. On dit le bilan des inondations en Indonésie approche le millier de morts. Les tempêtes ont fait en tout plus de 1820 victimes en Indonésie, au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam. Les inondations et les glissements de terrain dans l'île indonésienne de Sumatra ont fait 961 morts et 5000 blessés, a annoncé l'Agence nationale de gestion des catastrophes, tandis que se poursuit le déblaiement des régions sinistrées auxquelles participent des éléphants. En août, 293 personnes sont toujours portées disparues après la catastrophe qui a touché trois provinces de Sumatra, détruisant de nombreuses habitations, voies de communication et infrastructures publiques, a précisé l'agence indonésienne. Au total, plus de 1800 personnes ont péri en Indonésie, au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam, à la suite d'une série de tempêtes tropicales et de pluies de mousson qui ont provoqué des glissements de terrain et crues soudaines. Les changements climatiques, ça se passe maintenant, puis on va en jaser un peu parce qu'il semble qu'on dirait qu'on ne réalise pas que ça se passe maintenant. Justement, là, dans le devoir de mardi cette semaine, un texte de Nature Québec, ce n'est pas Nature Québec, mais c'est Nature Québec qui se prononce, qui dit en 2025, l'environnement a été sacrifié par Québec et Ottawa dénonce une coalition. C'est une vision dépassée, dangereuse, déconnectée que de faire primer l'économie, dit la directrice de Nature Québec. L'année qui vient de s'écouler marque un tournant inquiétant pour la démocratie environnementale au Québec et au Canada, selon une quinzaine d'organismes qui font état de dérives autoritaires et appellent la population à se mobiliser. Plusieurs groupes environnementaux ont convié les médias à la Maison du développement durable à Montréal lundi pour dénoncer la multiplication des textes législatifs qui affaiblissent la protection de l'environnement. Dans les derniers mois au Québec, une accumulation inédite de projets de loi fragilisant l'état de droit a été constatée, notamment par l'utilisation du bâillon, le dépôt d'omnibus et l'élargissement du pouvoir discrétionnaire du gouvernement, ont dénoncé les groupes environnementaux dans un communiqué. Encore une fois, dans le devoir de mercredi, faune et parcs et espèces en péril devront céder la place au projet prioritaire de la CAQ. Après avoir décidé d'accélérer l'évaluation des projets potentiellement dommageables pour l'environnement, le gouvernement Legault a déposé mardi un projet de loi qui permettra d'aller encore plus vite pour certains projets jugés prioritaires. Sera alors possible de passer outre plusieurs lois censées protéger les milieux naturels, les parcs nationaux et les espèces menacées. Alors, ça va dans ce sens-là. On voit là qu'il y a comme tout d'un coup un recul, un désintérêt. C'est comme si l'environnement, ça comptait plus maintenant. C'est seulement l'économie. La même chose ici dans le devoir de mercredi. Ottawa va réformer son système de surveillance des pesticides. Le fédéral troque les réévaluations cycliques pour une surveillance, entre guillemets, moderne, fondée sur le risque. Le gouvernement du Canada va supprimer les réévaluations cycliques des pesticides et opter pour une surveillance moderne fondée sur le risque. Cette décision, discrètement mentionnée dans le dernier budget fédéral, suscite des réactions variées chez les scientifiques. Jusqu'à présent, la loi sur les produits antiparasitaires impose à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de réévaluer les pesticides homologués de manière cyclique tous les 15 ans afin de prendre en compte les nouvelles données probantes. Or, en raison du nombre croissant de produits antiparasitaires homologués au Canada, l'ARLA accuse du retard dans ces réévaluations, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la santé humaine et planétaire. L'une des annexes du budget fédéral annonce aussi la volonté du gouvernement de supprimer les réévaluations cycliques et de mettre en place une surveillance moderne. La biologiste Mathilde Tissier, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal et chercheuse au Centre national de recherche scientifique en France, s'inquiète de la suppression de la réévaluation cyclique des pesticides. Avec trois collègues scientifiques du Canada et des États-Unis, elle signe une lettre ouverte dans Le Devoir pour alerter cette situation. Ensuite, toujours dans la même veine, dans Le Devoir de lundi, pas de répit pour la disparition des milieux humides. Québec a accordé des milliers d'autorisations de détruire, malgré sa prétention, à aucune perte nette. Près de 10 ans après l'adoption de la loi censée freiner la disparition des milieux humides du Québec, au Québec, l'échec semble évident. Les données fournies au Devoir par le ministère de l'Environnement démontrent que le gouvernement a accordé des milliers d'autorisations permettant de détruire ces écosystèmes essentiels tout en accumulant plus de 270 millions de dollars en dédommagement. Malgré ce pactole, les compensations sont pour ainsi dire inexistantes. En adoptant en juin 2017 la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, le gouvernement du Québec promettait non seulement de freiner la perte de milieux humides, mais aussi de viser des gains nets, de tout s'appuyant sur le principe d'aucune perte nette. À la lumière des plus récentes données disponibles auprès du ministère de l'Environnement, tout indique que ces engagements n'ont pas été respectés. Il y a aussi, ça c'est plus général, là, Jakarta qui devient la ville la plus peuplée de la planète. Une nouvelle méthode de calcul propulse la capitale de l'Indonésie au premier rang devant Tokyo. Alors, Jakarta, sont rendus maintenant à 42 millions, pas 400 millions, 42 millions d'habitants, soit à peu près la population du Canada. Et bon, il y a les changements climatiques qui ont un impact sur Jakarta parce que la ville de Jakarta est sous le niveau de la mer. Donc, et le niveau de la mer, on sait, est en augmentation à cause de la fonte des glaciers. Et aussi, en plus, bien là, à cause de l'utilisation de la nappe phréatique, bien, la ville est en train de s'enfoncer en plus. Donc, l'Indonésie est en train de déménager Jakarta, je ne sais pas combien de décennies que ça va prendre, une ville de 40 millions d'habitants, la population du Canada qui va devoir être relocalisée parce qu'ils sont sous le niveau de la mer. Dans des nouvelles plus positives, disons, il y a Louis Garneau qui a acheté une église dans Portneuf pour en faire un musée du vélo. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que c'est notre patrimoine religieux qui est recyclé pour des choses intéressantes. Comme il dit Louis Garneau, nous au Québec, on n'a pas de château. Nos châteaux, c'est les églises, alors il faut essayer de les sauver. Alors il en a acheté une, là, à l'église de Sainte-Christine d'Auvergne. Il est supposé d'ouvrir son musée cet été, au mois de mai prochain. Puis, dernière nouvelle dans la même veine, basculement vers les véhicules électriques en Chine et en Europe. Un chercheur québécois signe une étude dans la revue Nature Communication. Les marchés automobiles européens et chinois ont irréversiblement basculé vers les véhicules électriques. On est très en retard au Québec, au Canada, par rapport à la Chine, même l'Europe. Voyez-vous, en Chine, là, le nombre, par rapport au nombre de véhicules vendus, ils sont presque rendus à 50 %. C'est égal, autant électrique qu'à essence. Puis en Europe, ils sont rendus là. Tandis qu'au Canada, je pense que c'est 8 ou 9 %. Alors, on a un retard aussi de ce côté-là et on le voit aussi avec les politiques qu'on voit avec nos voisins du Sud. Les véhicules électriques aussi prennent du retard. Alors, Tout ça pour dire qu'on va faire le point avec notre invité Jean Nollet là-dessus, où on en est rendu, qu'est-ce qui se passe avec la lutte au changement climatique. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on parle changement climatique. C'était un peu d'accordéon, un accordéoniste irlandais, Diarmuid O'Meacher. Et le titre de sa pièce, c'était « Cairo Ramblers and Richie Der Dwyer's and Greta's Favorite ». Je l'ai choisi, cette pièce-là, parce que c'est Greta's Favorite. Je ne sais pas si c'est Greta Thunberg, mais en tout cas, je me disais, je vais avoir peut-être de la suite dans mes idées. Avant ça, on avait eu Richard Séguin, Retour à Walden. La pièce, c'était Devant moi la vie. Alors, bonjour Jean. On va se tutoyer, on se connaît un peu, hein?
Un petit peu. Bonjour Jacques, ça fait plaisir de te voir.
Ben, c'est bien le fun. Puis c'est ça, t'es allé comme à chaque année presque, là, à la COP. Puis c'est pour ça que je t'ai invité, pour que tu nous fasses un peu un bilan de ta COP pour la Fondation québécoise.
Fondation en environnement et développement durable.
Fondation en environnement durable. Bon. Et ben c'est ça, on va commencer dans le cœur du sujet. L'année dernière, tu m'avais dit, ben il y avait une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on semblait probablement pas pouvoir atteindre l'objectif des accords de Paris là, de 1,5 degrés, d'essayer de limiter à 1,5. On n'est pas encore rendu, mais on semblerait que c'est comme presque inatteignable là, l'objectif des accords de Paris pour le 1,5 degré. D'ailleurs, tu me parleras de nouvel objectif, où est-ce qu'est-ce qu'on veut comme nouvel objectif. Puis la bonne nouvelle, c'est que tu m'avais dit, mais on dirait que à cause de la Chine qui est allée à fond dans le solaire, le virage, la transition énergétique en Chine énorme, fait qu'on probablement, c'est rien de certain, qu'on va éviter les scénarios ultra catastrophiques qui finalement menacerait la vie sur Terre, là, carrément. Là. Fait que, ça, c'était le bilan de l'année dernière.
Ben écoute, c'était à peu près encore le même bilan cette année, sauf que je te dirais que ça apparaît de plus en plus certain que l'objectif de 1,5 degrés Celsius ne sera pas respecté, parce qu'en fait, déjà, l'année dernière, on a dépassé le 1,5 degrés Celsius. Évidemment, ça peut fluctuer, ça peut baisser, ça peut augmenter.
Je pense que c'est 10 ans que ça prend, ou 30 ans de mesure, ou 10?
Bonne question.
Il me semble que c'est 10 ans, ou 10 ou 20 ans. C'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer, parce qu'on monte, puis on peut aller plus bas, quand on regarde l'hiver qu'on a cette année.
C'est ça, ça fluctue d'une année à l'autre. Là. Mais... effectivement, les choses se présentent mal en termes de respect des accords signés à Paris. Par contre, tu as mis l'accent là-dessus, puis tu as raison, notamment à cause de la Chine, mais tu as mentionné aussi ce qui se passe en Europe dans la revue de presse avec Le Devoir. Puis, ce qu'on constate, c'est que le nouveau scénario qui apparaît probable, c'est que genre plus 2,8 degrés Celsius plutôt que le 4,5 ou le 5 degrés Celsius qui était un pronostic sombre il y a une dizaine d'années qu'on voyait comme étant possible. Donc, on serait passé d'un 4,5 ou 5 degrés Celsius de plus à peut-être un 2,8 degrés Celsius de plus. Ceci étant dit, ça reste grave parce que au-delà de 2 degrés Celsius, on ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. Et par contre, on sait qu'il y a des catastrophes, il va s'en produire au-delà de 2 degrés Celsius. Bon, mais dans les 10 dernières années, on a réussi à passer d'une perspective de 4,55 à environ 2,8 degrés Celsius, ce qui est en soi une bonne nouvelle en termes de projection. En fait, bonne nouvelle. Je viens de dire bonne nouvelle parce qu'il y a amélioration. Mauvaise nouvelle parce qu'à 2,8 degrés Celsius, on est dans la marde pareil. Là, c'est problématique.
Oui. Ben c'est ça. C'est un peu aussi... c'est compliqué. C'est complexe, les changements climatiques. Ça a des impacts tout partout. C'est pas facile à suivre. Moi qui suis pas mal ça, je peux comprendre que les gens ont de la misère... adhérer. Fait que là, il y a comme un relâchement, là, parce qu'on pense que c'est pas si grave que ça. Puis, tu sais, quand on parle de, mettons-le au pire, là, 3 degrés, là, c'est seulement qu'en 2100, là. C'est, ça va être, ça sera pas tout de suite, là. Ça va prendre du temps avant qu'on se rende là, là.
C'est vrai. Ça peut sembler... L'enjeu, c'est que ça se peut sembler pas beaucoup, mais... Puis... Peut-être qu'on est victime de notre géographie puis de notre climat au Québec pour avoir l'impression que c'est pas beaucoup. D'abord, on est dans un pays nordique. Et puis, si on nous annonce de la chaleur, on est content, d'une part. Ensuite de ça, on est situé géographiquement dans un lieu où les écarts de température sont énormes. Il y a deux jours, il faisait moins 20. Aujourd'hui, il fait moins 5. On a vécu un écart de 15 degrés Celsius en l'espace de 48 heures. Fait que quand on nous parle de 3 degrés Celsius sur 100 ans, pour nous autres, ça semble être de la petite bière. Mais il faut savoir que la mesure est prise, c'est une moyenne planétaire. Puis la température moyenne sur le globe, c'est environ 12 degrés Celsius. Si tu ajoutes 3 degrés Celsius sur la moyenne, ça fait beaucoup dans les extrêmes. Et on parle de, pour le Québec, le 1,5 degrés Celsius, puis il se traduit en certains lieux par du 4,5 degrés Celsius de plus dans le nord du Québec. Et ça, ça change complètement les modes de vie, les moyens de transport, les pratiques usuelles de vie, là. Donc, c'est important. Puis encore là, pour nous, ça peut sembler pas si pire parce que on reste dans des températures qui nous apparaissent viables. Par contre, à l'échelle planétaire, ce que ça peut avoir comme impact, c'est dramatique. Là, quand on regarde ce qui se passe en Inde, tu viens de parler de l'Indonésie, ben t'ajoutes quelques degrés dans des endroits chauds et humides. C'est énorme comme impact. Et d'ailleurs, pour rendre ça un peu plus concret, je vous mentionne que lors d'un voyage en autobus vers la COP à Belém, j'étais assis à côté d'un Somalien qui m'a dit textuellement, il me dit « Si tu veux voir c'est quoi les impacts des changements climatiques, viens chez nous en Somalie, tu vas voir de quoi ça a l'air. » Puis là, il parlait lui était spécialisé dans les négociations sur le secteur agricole et il me dit « Tu sais, habituellement, en Somalie, tu pouvais semer, te préparer le sol en février, semer en mars, puis après ça, bon ben c'était le temps des récoltes qui venait doucement. Tu savais qu'il allait pleuvoir en mars au moment où tu semais, puis après ça, bon ben les récoltes allaient venir. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation de la température, puis on focus là-dessus, mais dans les faits, ce qui vient avec ça, c'est beaucoup d'imprévisibilité par rapport au climat. Et là, ce qu'il me disait, c'est qu'on ne sait plus quand est-ce qu'il va pleuvoir, puis on ne sait pas en quelle quantité, s'il va pleuvoir, de sorte que ça a des impacts dramatiques sur les petits producteurs agricoles qui, là-bas, représentent 90 % de la population, qui ne savent pas s'ils vont, quand semer, s'ils vont récolter, combien ils vont récolter, de sorte que le niveau de précarité a augmenté énormément en Somalie. Et puis, bon, ben, c'est le cas dans beaucoup de pays en développement.
C'est là que ça se passe malheureusement. C'est dans les pays en Afrique, en Asie, en développement. Même tu sais, la Syrie, tu sais, la grosse crise qu'il y a eu au printemps arabe, là, ce qu'on ne sait pas, c'est que, en fait, j'avais lu là-dessus, c'est que c'est les changements climatiques qui ont déclenché ça, parce que la Syrie, c'est un pays qui a tendance à être désertique. Et là, avec les changements climatiques, ça amplifie la désertification. Donc, les gens sont allés à Damas, puis ça a fait des tensions sociales, là.
Puis, l'enjeu auquel on va être confronté comme humanité, puis on le voit, là, on entend les discours sur l'immigration qu'on veut de plus en plus strict pour empêcher les gens d'envahir nos pays. Tu sais, il y a comme une crainte de voir arriver davantage d'étrangers chez nous qui peut se comprendre à certains égards parce qu'on veut préserver notre culture, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'il y a du monde qui vit dans des pays où c'est de moins en moins facile de vivre et qui cherche d'une façon ou d'une autre à améliorer leur qualité de vie puis les perspectives pour leurs enfants et ainsi de suite. Et ça va augmenter au fil du temps. Et ce qui est dangereux, c'est qu'à un moment donné, quand des pays au complet sont mis à risque puis que ces pays-là ont des armées, ben, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont se traduire les tensions sociales d'un point de vue géopolitique? Ben, ça risque de nous affecter.
Ben, justement, la Syrie, on l'a vu, là, dans le temps de la crise qu'il y a eu en Syrie, la guerre civile, ben, c'était ça, les réfugiés syriens qui venaient rester au Québec, là. On n'a pas pris tant que ça, mais on en a pris un peu. Puis c'est des gens moi, j'ai vu des reportages là-dessus. C'est des gens comme nous, là, comme toi et moi, là, ben sympathiques. Ouais. C'est juste que c'est plus viable. Oui, eux autres, c'était la guerre, faut dire. Mais il y avait eu les changements climatiques avant, là. Mais c'est partout, là. C'est que les gens, c'est pas nécessairement par gaieté de cœur qu'ils deviennent des migrants, là.
Exact. C'est un choix difficile que de quitter son pays, sa communauté, sa famille pour aller faire sa vie ailleurs. Fait que les gens le font pas, comme tu dis, de gaieté de cœur.
On va prendre une petite pause musicale.
Très bien.
Puis au retour, peut-être nous parler un peu de la COP là, là-bas, comment à Belém, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as vu. Les négociations, c'est complexe, on n'embarquera pas là-dedans, mais peut-être en parler un peu. Là,
très bien.
Qu'est-ce qui se passe? Parce que là aussi, on dirait qu'il y a une dérive un peu là, dans les COP. Là, fait que, alors, on prend une pause musicale. Ça ne sera pas long. Et. J'avais oublié de préparer mon disque. Pièce de Jean-Sébastien Bach, c'est un air sur la corde de sol. C'est interprété par Nathalie Choquette sur son bel album Triptyque. Et l'album en question que j'ai choisi, c'est l'album Eterna, Nathalie Choquette. Alors, Jean.
Oui, Jacques.
Fais-nous ton bilan de Belém.
Bien, si on passe rapidement sur les négociations, on a vu dans les journaux les analystes très critiques par rapport aux résultats mitigés de la COP à Belém. Et je dirais que à chaque année, c'est la même chose. À chaque année, il y a une déception par rapport à l'ampleur des objectifs qui sont fixés, à l'ampleur des transferts d'argent qui vont être faits des pays développés aux pays en développement. Et puis, depuis quelques COP, une déception par rapport aux engagements, par rapport à la sortie des énergies fossiles. Quand on y pense, il ne devrait pas y avoir de surprise devant la difficulté à s'entendre par consensus à 200 pays qui ont des intérêts très divergents sur les résultats de la COP. C'est magnifique quand on réussit à s'entendre sur quelque chose. C'est déjà quelque chose que 200 pays acceptent de se rencontrer pour discuter d'enjeux environnementaux comme ils le font aux différentes COP. Pour moi, en soi, ça, c'est un accomplissement. Après ça, espérer que les négociations vont donner lieu à des actions majeures, clés, qui vont faire une différence rapide dans notre façon de vivre en société, c'est beaucoup espéré. J'aimerais ça personnellement, mais réalistement, je vis dans une petite communauté, on est 21 adultes, puis on s'enfarge continuellement dans des futilités, là. Donc, penser que 200 pays avec des intérêts divergents vont s'entendre, c'est quelque chose de gros. Mais au-delà de ça, parce que moi, quand je vais à la COP, ce qui m'intéresse, c'est pas tant les négociations comme la multitude d'événements. Puis là, on parle d'événements parallèles, de conférences de toutes sortes. Il y en a des milliers qui se tiennent durant une COP. Et c'est fascinant. C'est l'occasion de rencontrer des acteurs qui sont actifs sur le terrain. Et là, je parle évidemment d'organismes environnementaux, mais vraiment pas juste des organismes environnementaux. Il y a toutes sortes d'associations touchées de près ou de loin par les changements climatiques. Il y a des promoteurs de projets qui vont dans le sens de la lutte au changement climatique. Il y a des grandes entreprises qui arrivent avec leurs idées, qui présentent ce qu'elles font. Il y a des financiers qui sont sur place, qui se spécialisent en partie dans le financement de projets environnementaux. Et ça fait une ébullition d'idées, de discussions, de réflexions de toutes sortes par rapport à ce qui peut être fait concrètement sur le terrain pour mettre en œuvre des projets qui font une différence dans la vie des gens. Et ça, je trouve ça magnifique. Et je reviens à chaque fois nourri des réflexions auxquelles j'ai l'occasion de participer seulement en étant présent là-bas. Je peux mentionner trois éléments, si tu veux, qui m'ont sauté aux yeux, je dirais, par rapport aux COP précédentes. Parce que on est toujours dans la lutte au changement climatique, mais il y a des changements dans les façons de faire qui se matérialisent doucement puis qu'on voit arriver quand on participe, comme je le fais, d'une COP à l'autre. Et là, je dirais que ce qui m'a frappé cette fois-ci, c'est notamment la question de la convergence entre les enjeux environnementaux. On a l'habitude de traiter de la biodiversité dans une convention aux Nations Unies, de traiter du climat dans une autre convention aux Nations Unies. Et c'est comme deux silos qui évoluent en parallèle, mais c'est aussi comme ça, souvent, dans les groupes environnementaux, dans leur spécialité, dans leur spécialisation. Et là, ce qui me frappait, c'était qu'on parlait de la nécessaire convergence dans la lutte sur ces questions-là de biodiversité et de climat. Et ça, j'ai trouvé que c'était très encourageant. On parle même de convergence au niveau des Nations unies, mais on parle de convergence sur le terrain en luttant contre les changements climatiques, en mettant en œuvre des projets basés ou fondés sur la nature. Ce qui est... Et on parle aussi d'exporter la logique du marché du carbone vers la biodiversité en créant des crédits pour de la biodiversité ou des crédits pour la nature de façon à arriver à trouver des nouveaux moyens de financement pour mettre en œuvre des projets qui vont justement permettre cette convergence-là entre les enjeux de climat et de biodiversité. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Un autre enjeu qui est sorti très fort, c'est celui de la justice climatique. Ça fait des années qu'on en parle, de la justice climatique. Au départ, il y a 10 ans, quand on parlait de justice climatique, c'était un concept qui avait été développé dans les pays riches où les syndicats se préoccupaient de l'impact sur leurs travailleurs de la transition énergétique. Par exemple, les syndicats dans le secteur pétrolier au Canada se préoccupaient de ce qui allait se passer avec la transition énergétique si on sortait du pétrole, ou dans le secteur de l'automobile si on allait vers les autos électriques, et ainsi de suite. De sorte que c'était ça il y a 10 ans, et maintenant, le concept de justice climatique, il s'applique évidemment beaucoup aux écarts de richesse entre les pays développés et les pays en développement, le Nord versus le Sud, mais aussi on parle de justice climatique entre les genres, puis entre les générations, par exemple, puis avec les Autochtones. De sorte que on a une préoccupation, la justice climatique, qui s'est globalisée, étendue, diversifiée, ce que j'ai trouvé quand même fascinant de constater. Puis si tu te permets, il y a un troisième point qui m'a frappé. Évidemment, tout le monde a pris connaissance de la volonté de l'administration Trump de sortir encore une fois de l'accord de Paris. Il n'y avait pas de représentant américain à la COP cette année. Je dis pas qu'il n'y avait pas d'Américains, mais du gouvernement américain, il n'y en avait pas. Et il y a une espèce de gros paradoxe qui est ressorti sur la dynamique lutte au changement climatique et autoritarisme qu'on voit arriver dans le monde de plus en plus. Et c'est par un drôle de concours de circonstances ou de retour du bâton, on dirait que la lutte au changement climatique alimente l'autoritarisme. Et évidemment, c'est surprenant à première vue, mais il y a quelque chose dans la lutte au changement climatique qui est devenu au fil du temps vraiment qui a suscité de plus en plus d'antagonisme. On a des climato-sceptiques versus des gens qui croient au changement climatique. On a des gens qui croient à la science et qui ne croient pas à la science. On a des gens qui croient à la voie technologique et d'autres qui n'y croient pas. On a des gens qui croient à l'usage du marché pour faciliter la lutte au changement climatique et d'autres qui pensent que c'est impossible que le capitalisme soit en partie une solution aux enjeux auxquels on est confronté. Donc, il y a beaucoup d'antagonisme autour de la lutte au changement climatique qui est récupéré par la droite et par les régimes autoritaires. Et il y a... Donc, c'est assez fascinant de constater que des bonnes intentions génèrent de l'opposition, des antagonismes qui est récupéré ensuite par la droite et utilisé comme justification par des régimes autoritaires pour mettre en œuvre leur politique de droite. Ces trois éléments là, qui m'ont vraiment frappé à la COP cette année. Là, je pense que je vais te laisser prendre la parole.
Et tu parles des régimes autoritaires, on s'entend que l'envers de la médaille de la Chine, c'en est un régime autoritaire. Il y a des bons côtés, on peut dire, au régime autoritaire, si la Chine décide qu'on lutte au changement, on va lutter contre les changements climatiques, très efficace. Et on le voit, mais là, c'est sûr que ça peut être inquiétant aussi, là, la dérive autoritaire chinoise. Là.
Oui, mais c'est inquiétant. Bon, disons qu'en Chine, c'est pas nouveau. Oui. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, dans certains pays européens, avec la montée de la droite, avec des politiques qui remettent en cause même l'existence des changements climatiques, ben là, il y a matière à être inquiet quand on fait de la lutte au changement climatique un sujet si politique.
Oui.
Plutôt que d'en faire, comment dire, un objet de rassemblement, parce qu'on a là quelque part un bien commun à préserver, quelle que soit l'orientation politique à laquelle on appartient.
Mais il y a la science, mais il y a la réalité aussi. Prenons les États-Unis. Actuellement, c'est de plus en plus difficile d'assurer une maison. La réalité, c'est que tu as un assureur que lui, il est dans la réalité. Lui, il y a des dommages qui se passent. Il faut qu'il paye, puis il essaye de comprendre d'où viennent ces dommages-là. Et lui, il sait que c'est les changements climatiques qui font que tellement d'inondations, tout ça. Puis aux États-Unis, tu as des endroits que les maisons sont peu assurables.
Ben, c'est le cas au Québec aussi. Puis là, on est en plein processus de réévaluation des zones inondables au Québec. Ça va avoir un impact concret, justement,
ben
sur
oui.
l'assurabilité de certaines maisons qui vont se retrouver tout à coup en zone inondable, alors que auparavant, ils étaient dans une zone de récurrence 50 ans, puis maintenant, c'est une zone de récurrence 10 ans. Ben là, ça change tout. Là.
Ça fait que ouais. t'as beau dire, on est contre les changements climatiques, ça n'existe pas, mais il y a une réalité aussi, là, tu sais. Quand ton sous-sol est inondé, ça existe, là.
C'est ça. C'est clair, c'est clair. Mais des fois, c'est difficile d'attribuer au changement climatique un événement précis.
Oui, il y a ça.
Parce que...
Ouais.
Des catastrophes naturelles, il y en a toujours eu.
Ouais.
Ce qui est... Puis, comme on a la mémoire courte, c'est difficile, dans certains cas, de constater l'augmentation de la fréquence.
Oui, mais les assureurs, eux, ils fonctionnent sur une base nationale. Alors, ils compilent des données.
Ouais.
Puis là, eux autres le voient bien, là, que c'est sûr, si ton sol est inondé, c'est pas nécessairement à cause des changements climatiques. Il y en a toujours eu des inondations. Mais s'il est inondé une fois par 25 ans, puis qu'à un moment donné, il commence à être inondé à tous les deux ans, bien là, il y a quelque chose qui a changé, là.
Oui, puis ça, eux autres le constatent. Puis les citoyens ordinaires commencent à le constater aussi, là.
Ouais, ouais.
Oh, oui.
Fait qu'il y a une réalité. Fait que... On va prendre une dernière pause musicale, puis il va nous rester quelques minutes pour conclure. C'est quoi notre bilan? C'est quoi notre conclusion de notre discussion?
Très bien.
l'ensemble Caprice, une pièce de Jean-Sébastien Bach. Puis il nous reste quelques minutes pour conclure. Alors, c'est ça, on en parlait, là, t'as différentes approches pour régler les changements climatiques, soit changement de mode de vie ou les changements technologiques.
Puis, moi, j'ai le sentiment que, en fait, la réflexion que je me fais sur le sujet, c'est que demander aux gens de faire des sacrifices pour des questions environnementales, c'est difficile, ça pogne pas. En fait, si je pousse plus loin ma réflexion, on peut demander des sacrifices à des gens sur le court terme pour un effort de guerre. Mais demander des sacrifices aux gens pour toujours, c'est difficile. Fait que, pour moi, il y a de l'espoir, mais il réside en partie dans les technologies parce que le constat que je fais après 25 ans d'implication dans la lutte au changement climatique, c'est que les changements sociaux, les changements de comportement, le plus souvent arrivent grâce à des changements technologiques. Parce que l'adoption de technologies, ça se produit beaucoup plus rapidement que l'évolution du niveau de conscience, par exemple.
Moi, je pense qu'il y a un entre-deux à trouver. C'est ça, nous, la simple et volontaire, ce qu'on dit, c'est qu'on a des zones de réduction possibles. Puis, cette réduction possible-là, on la compense par une amélioration de notre qualité de vie. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On ne se prive pas. En faisant la simple et volontaire, on améliore notre qualité de vie. Mais ça donne quoi d'avoir trois VUS dans ton garage, là? Ça ne donne rien, mais peut-être une petite voiture, ça permet d'avoir une bonne qualité. Les deux autres VUS que tu n'as pas, là, bien, lui, tu les compenses par moins travailler puis vivre des choses qui sont importantes ou significatives dans ta vie. Tu as un peu ça, l'idée de la simplicité volontaire. Il y a une zone de réduction possible. Là.
Moi, j'y adhère complètement, mais le constat que je fais, c'est que tout le monde n'arrivera pas là assez rapidement pour que faire une immense différence en matière d'émissions de gaz.
C'est une question de valeur. C'est que ça prend du temps, mais les gens sont convaincus que plus que tu as, mieux que tu es. En simple et volontaire, on dit, une fois que tu as ce qu'il faut, si tu cumules, tu nuis à ta vie. Et une fois que tu as ce qu'il faut, ben investis ailleurs. Puis ça, cette leçon-là, cette valeur-là, Ça va prendre. Mais c'est en train... Parce que c'est long. À long terme, les gens vont le comprendre. D'ailleurs, tu peux pas parler de simplicité volontaire dans des endroits où la pauvreté sévit parce que ces gens-là sont convaincus, avec raison, que s'ils ont plus, ils vont être mieux. Mais dans nos sociétés développées, c'est plus vrai, ça. Mais c'est un message qui est long à apprendre.
Je suis tellement d'accord. Jacques. Oui.
Ben voilà, on est obligé de conclure là-dessus, mais on va se revoir de toute façon, on va te réinviter. Alors, voilà, c'était notre dernière de la saison. On va avoir des reprises. Comme je vous disais, vous pouvez aller sur le site Internet des Amis de la Terre là, dans la section Comité Simplicité Volontaire pour réécouter les émissions. Et aussi, pour ceux qui s'intéressent, on a un café philo vendredi prochain. À la librairie La Liberté. Alors voilà, alors bonne, joyeuse fête à tout le monde et on se revoit en 2026.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.